tout ce que nous sommes en train de dire, tout ce que je suis pour ma part en train de dire, c'est que nous ne savons pas si les Indo-Européens ont existé. Nous ne savons pas s'ils ont constitué une unité sociale et ethnique réelle, et je dirais même, nous sommes à peu près sûrs qu'ils n'ont jamais constitué une unité ethnique réelle. Et que par conséquent, il est très superficiel et très absurde de vouloir leur attribuer une vision religieuse du monde, schématique, cohérente et faisant bloc. Il est absurde de parler du polythéisme des Indo-Européens comme s'il y avait eu à un endroit donné de l'Europe et à un moment donné de l'histoire un ensemble de gens qui se soient réunis et qui se soient dit « nous sommes polythéistes ». C'est au fond la même histoire que celle qui consiste à appliquer rétroactivement le concept de Moyen-Âge aux gens du XIIe siècle. Les gens du XIIe siècle ne se sont jamais dit « nous autres, hommes du Moyen-Âge ». C'est au fond le même type de projection dans le passé qui relève d'un sophisme sur lequel, à mon avis, il vaut la peine de s'arrêter deux minutes pour essayer de ne plus le commettre.
Bien. Vous me permettez de faire une petite incidente sur votre intervention ? Avec la permission de l'orateur précédent, c'est à propos de Dumézil, je dirais, en attendant Léon Ashkenazi, que il me semble effectivement que le débat entre le mono et le poly est un débat qui paraît scientifiquement extrêmement ambigu et extrêmement suspect. Et je voudrais dire mon sentiment d'une manière très improvisée à partir de l'intervention de Christian de la Campagne. Ceux qui se réfèrent aux travaux de Dumézil en opposant une idéologie polythéiste de la liberté à un totalitarisme qui se réclamerait du monothéisme, ou bien n'ont pas pris connaissance des textes originels bibliques, ou bien ont une connaissance tout à fait caricaturale de l'œuvre de Dumézil. Parce que Dumézil insiste dans ses travaux sur, certes, la tripartition de la des fonctions essentielles dans le monde, mais il insiste surtout, et autant je dirais, sur la transition de l'une à l'autre et sur le système qu'elle forme. Et donc, par exemple, dans son ouvrage sur la religion archaïque romaine, Dumézil montre qu'il n'y a pas séparation entre Jupiter, Mars et Quirinus, c'est-à-dire entre le dieu qui symbolise la transcendance absolue, le dieu qui symbolise la guerre, et celui qui symbolise la production et, ce qu'on appellerait aujourd'hui la quotidienneté. Quirinus, c'est la vie qui se fait, la vie au jour le jour. Mars symbolise la fonction défensive de cette vie, et Jupiter symbolise les possibilités de dépassement de cette vie. Donc il y a en quelque sorte, je dirais, une unité fonctionnelle entre ces trois fonctions et pas du tout une vision éclatée dont pourraient se réclamer au plan scientifique, entre guillemets, les tenants d'un polythéisme idéologique. Et je crois que ce qui est en jeu très, très profondément, c'est actuellement le débat sur l'histoire et sur l'historicité. Prétendre que Abraham serait l'ancêtre éponyme, le fondateur du monothéisme, et qu'en tant que tel, il n'aurait fait que cristalliser dans le monde les volontés d'un dieu totalitaire, c'est un de ces contresens, justement sur le sens duquel il faudrait s'interroger, parce que ça va à rebours du texte biblique. Je voudrais ici dire très très rapidement quelques mots sur un commentaire d'un de mes homonymes, André Drahi, dans un groupe de recherche qui a lieu à Jérusalem, sur le Lech Lecha. Vous connaissez tous, et je pense que vous en avez parlé ici, le sens profond de ce commandement de Dieu qui intervient pour demander à l'homme de devenir, n'est-ce pas ? Et quoi de plus contradictoire que le devenir et le totalitarisme ? Mais André Drahi faisait remarquer que ce devenir n'était pas un devenir facile, ce n'était pas un devenir narcissique, c'était un devenir qui était conquis sur le sens de l'appropriation, sur ce que Freud appellerait la pulsion d'emprise, n'est-ce pas ? Dieu dit à Abraham, va, donc va vers toi, ou va vers toi-même, ou va pour toi-même, de ta maison, de ta patrie, de ta terre, n'est-ce pas ? Et donc il y a une remise en cause de toutes les habitudes de possession vers une terre que je te montrerai, n'est-ce pas ? Et Abraham ici est confronté au temps en tant qu'il est confronté à l'incertitude. Et ce qui est tout à fait, je dirais, révélateur dans le comportement d'Abraham que nous prenons dans les énoncés du texte biblique, c'est que il nous oblige à nous confronter à cette notion d'historicité, à cette notion du devenir, et d'un devenir, je dirais, à la puissance 2. Vous connaissez tous le texte qui concerne la circoncision, la Mila plus exactement, où Dieu dit à Abraham, marche devant moi, n'est-ce pas ? Et alors, vous voyez le sens, n'est-ce pas, de ce Dieu qui est un Dieu en mouvement, qui est un Dieu qui marche, et qui oblige par conséquent l'homme à marcher, et donc à s'extérioriser constamment, et à inscrire son comportement, non pas dans la seule dimension de l'espace, et non pas dans la seule dimension de la quantité, mais aussi dans la dimension du temps. Et c'est pourquoi il me semble que le débat entre le monothéisme et le polythéisme réduit à ces termes propres, et le type même du débat idéologique et du débat polémique, qui montre comment la pensée peut être une pensée de guerre et une pensée meurtrière. Je crois que si l'on suit toujours la même méthodologie, qui est de retourner aux textes eux-mêmes, s'agissant de la Bible, ou d'affronter une pensée scientifique comme celle de Dumézil ou celle de Lévi-Strauss, dans la totalité de son expression, on s'aperçoit à chaque fois que non seulement les choses ne sont pas simples, et que pour les rendre idéologiques, il faut les réduire et les caricaturer, mais que se confronter à l'œuvre même, c'est soi-même faire l'expérience de cette historicité, et faire soi-même l'expérience de ce devenir. Et par conséquent, je crois que c'est dans toutes les directions qui ont été ouvertes ce soir que vos questions peuvent d'ores et déjà surgir ou devenir, n'est-ce pas ? Et peut-être que dans le temps de l'histoire, Léon Ashkenazi voudra bien nous rejoindre bientôt. Donc vous avez la parole. Monsieur Prince.
L'année au hasard, je ne veux pas que ce soit un débat conséquent. On peut également ne pas poser des questions, mais également peut-être contribuer au débat. Donc, ça se forme quelques remarques un petit peu déliées par rapport à ce que j'ai entendu très différent. Premièrement, je voudrais rappeler à propos de sa vie de la campagne. Connaissons la division en trois catégories de l'Église, que dans le judaïsme, la division est en quatre catégories. La division de la société, le judaïsme, c'est qui est représenté par le mot Mishkan, le sanctuaire, qui représente la maison parfaite que l'homme parfait doit construire pour que le Dieu parfait habite sur terre. Ce qu'on vote, c'est un enseignement d'ailleurs. Léon Ashkenazi nous avait donné en 1974 dans une colloque intellectuelle en français sur le Shabbat de Dieu, et il se compose de quatre mots, des initiales, pas le mot Mishkan composé en fait de quatre lettres, chacune de ces lettres étant l'initiale d'un mot, qui sont Meler, roi, Shofet, le juge, Kohen, le prêtre, et Nari, le prophète. C'est-à-dire que les quatre divisions en quatre parties, l'exécutif, si vous voulez, le législatif, le sacerdotal et le prophète. On se dit une remarque, donc, une différence intéressante et la thèse du judaïsme, qu'il s'agit bien entendu d'unifier, puisque l'ensemble de ces quatre puissances qui souvent s'opposent doit constituer la demeure, c'est-à-dire ce qui permet l'unification et le lieu rendre habitable ce monde. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, au sujet du monothéisme, et donc par proposition, en comparaison avec le polythéisme, c'est que, en tout cas dans le judaïsme, le monothéisme n'est pas un concept théorique. C'est un vécu. Je crois que c'est important, ce n'est pas un concept théorique, philosophique, mais en tout cas, la tradition essaie d'en faire un vécu, quelque chose qui est expérimenté dans la tension à l'unité. Et on a cité ça, par exemple, la proclamation de foi de base du judaïsme pour Israël, Hachem, notre Dieu Hachem est un, n'est-ce pas, du jour, et l'ensemble des commentaires, comme vous en plus, insiste sur le fait que le mot un, Echa, en hébreu, signifie non seulement l'unité, mais l'unicité, c'est-à-dire à la fois un, mais qu'il est uni. Et que, donc, on veut parler d'animisme, comme vous l'avez dit, je crois qu'il y a une grande différence entre le monothéisme total, non pas totalitaire, mais total, de la conception juive, que Dieu est non seulement un et unique, mais que également en étant un, il est séparé complètement, notre concept, séparé de la création en tant qu'il est différent. Dieu n'est pas le monde, il est différent. Donc, ce qui évacue toute possibilité de sentir ou d'animer, pour répondre à la question que posait M. Lacordat. Mais dans le mot Echa lui-même, le mot qui désigne l'unité, en hébreu, qui est le 1, est composé de trois lettres. Donc, c'est que l'unité, c'est quelque chose qui est la résultante de modalités différentes. Bon, pas là pour faire une concurrence, en fait, une des explications classiques, que le mot Echa est composé donc, de trois lettres, qui sont les lettres Alem, dans la première lettre 1, lettre Chet, et 8, et d'Alef et 4, c'est-à-dire que Dieu est 1, et qu'il est dans toutes les dimensions de l'espace, aussi bien les huit niveaux de dimension qu'on appelle les huit cieux, que les quatre points cardinaux de notre univers. Mais je disais que le monothéisme est une notion expérimentée dans la tension à l'univers, parce que la tradition dit que si Israël peut parler et peut dire et faut Israël Hachem et Carré 1, c'est parce que la tension du peuple juif est un peuple 1 également, il y a dans la prière. Ça va de Mincha, c'est ça, à Ata Echad, tu es un, que Shifra Echad, je l'ai cité, au moins un, mais ça continue. On dit qu'entre Israël, Goy Echad l'arrête, et qui est, comme Israël, un peuple, parce que Goy ça veut dire peuple, on a plutôt que Israël, un Goy, un peuple unique sur terre. Et donc, c'est par de la mesure où Israël essaie d'être un, qu'il peut vivre cela. Non pas comme un concept théorique, mais comme quelque chose qui est expérimenté. Or, cette tension à l'unité, c'est évidemment le mot Echad. Lorsqu'on l'applique à Israël, le marin, en particulier, l'explique dans un de ses livres, qui est le Mère Mitzvah, il dit que c'est composé, eh bien, des 13 tribus. Vous savez que les 12 tribus sont 13 dans la réalité, puisque vous avez Joseph qui a eu deux tribus, un marché effrayé, et que le mot Echad se compose. Donc, d'une part, la tribu de Lévi, de 1, qui était complètement séparée des autres tribus, et puis le Lévi représente les 8 fils de Jacob, qui n'a eu pas pris, parce que le Phare a fait Léa, et le Dalet, le 4, les fils qu'il a eu par Lila et Lila, les différentes perspectives de ces deux-là. Et, sans s'en rajouter.
Bah, je crois qu'il y a d'autres questions qui veulent surgir.
Et alors, donc, cela veut dire que c'est pas par hasard. Qu'on attribue les lettres Echa au fils de Jacob, c'est-à-dire que dans la mesure où il y a déjà une identité commune, que l'unité va s'acquérir à travers des modalités de différentes représentées par les 13 fils de Jacob, qui représentent effectivement des modalités différentes, mais à l'intérieur d'une identité commune. Bon, donc l'identité, cette unité, va être vécue comme une composante. Et comment s'obtient dans le vécu de l'unité? Eh bien, la valeur numérique du Moyen Rat, c'est le 13, et la même chose de Ahava, l'amour. C'est-à-dire que l'unité s'obtient par la fraternité. Et nous retrouvons donc le problème d'Ahava. Alors, je voudrais simplement ajouter, pour ne pas prolonger, deux petites remarques c'est que bien sûr, pour répondre à l'angoisse de M. Dufour, qui est tout à fait d'ailleurs justifiée, à savoir que si l'unité peut s'obtenir à travers les votes du commandement, ça fait problème en raison de la halakha, il est bien certain, qu'est-ce que c'est que la halakha, ce n'est pas autre chose que la façon dont les rabbins de la tradition juive ont appliqué dans le quotidien la mitzvah qui est le commandement de Dieu. La volonté de Dieu pour l'homme est dite dans la vie de la mitzvah, la façon dont la mitzvah est appliquée et vécue, c'est la halakha. Or, la halakha est quelque chose qui est continuellement et quotidiennement actualisé. C'est le rôle même des rabbins, c'est le rôle même des rabbins de la tradition juive depuis les origines jusqu'à aujourd'hui, et il y a aujourd'hui encore un grand nombre de réactualisations continuelles de la halakha. C'est le travail essentiel des rabbins, avec un deuxième travail qui est justement la transmission. Et s'il y a parfois une certaine prudence, n'est-ce pas, bien que le but même du judaïsme, c'est l'ilmo de la mettre, apprendre et enseigner, et que par conséquent, c'est un des impératifs du judaïsme, mais il s'agit d'une science. Il s'agit de transmettre la tradition et non pas de transmettre n'importe quelle idéologie personnelle. Ce n'est plus la transmission du judaïsme. C'est tout à fait noble, c'est tout à fait valable. Et par conséquent, je crois que là, il y a ça permet de comprendre la prudence des rabbins. Mais en tout cas, je suis étonné de l'étonnement de M. Dufour, parce que là, à la fin, ce bien ou mal. En tout cas, il continue à être réalisé. Je m'excuse d'avoir été aussi long, j'ai quelques remarques.
C'était long, promotionnel. Attendez, je voudrais d'abord savoir s'il y a d'autres questions dans la salle, et puis on passera la parole à Roger Dufour qui voudrait répondre à M. Prince. Alors, je demanderai simplement, pour que le débat soit un peu vivant, que vos questions se condensent, et les orateurs feront en sorte aussi que leurs questions soient concentrées et percutantes. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires ? Bien, ben, Roger, si tu veux répondre.
Je pense que effectivement, l'intérêt de la pensée juive par rapport aux problèmes que l'on remue et par rapport à ce qu'en ont dit les philosophies, les chercheurs actuels, c'est qu'il y a dans le judaïsme une méthodologie, je dirais, particulière pour poser le problème. Et ça, c'est très riche. Il faut que ce soit pris en considération. On n'a pas seulement à se mettre dans la méthodologie des autres, mais à faire valoir la méthodologie que nous pouvons apporter. Et il me semble que la question essentielle, c'est, enfin, en ce qui concerne le judaïsme, c'est dans quel lieu, enfin, un terme que Shmuel Trigano emploie souvent, dans quel lieu peut advenir l'unité, plutôt que de définir l'unité. Dans quel lieu et à quelles conditions, je dirais, existentielles. Alors, je suis d'accord qu'il faut étudier, qu'il faut savoir de quoi on parle. Et j'indiquerai, à mon avis, quelques lieux particuliers qui sont indiqués pour que l'on puisse éventuellement advenir vers une meilleure appréhension de cette unité. Il y a d'abord un lieu qui me semble indispensable, d'après la tradition, c'est d'être situé parmi la vie des nations. Dans le traité Sanhédrin, on parlait du Mésie tout à l'heure, je pensais, quand on le citait, avec le nombre de langues qu'il connaît aussi, c'est la caractéristique typique des membres du Sanhédrin, qui devaient connaître les 70 langues de ceux qui les entouraient, et non seulement ça, à la fin de Mishneh Torah, Maïmonide insiste beaucoup là-dessus, aussi les magies des autres peuples, c'est-à-dire les magies, il traduit, c'est-à-dire les systèmes de représentation, comme fait Dumézil, la compréhension de l'intérieur réel des modes de pensée, de représentation des autres peuples. Donc, c'est déjà une première situation indispensable pour exercer la fonction que nous avons à exercer, de faire advenir l'humanité vers quelque chose qui est de l'ordre du 1 en fonction de quelqu'un ou de Hachem qui est de l'ordre du 1 également. Un deuxième lieu, me semble-t-il, c'est tout ce qui a été dit autour du couteau, c'est-à-dire de la relation de culture, de filiation, d'angoisse, des pulsions, enfin, jusqu'à leur extrême. Bon, enfin, on en a parlé beaucoup. Je pense qu'il y a un autre lieu aussi qui est important de mettre là-dedans dans cette dynamique humaine, pour ne pas simplement se référer à ce qu'en ont dit nos maîtres. Mais ce qu'ils ont dit, c'est dans une réalité existentielle d'un peuple, le nôtre, et de notre existence. Alors là, je pense à cette scène dont parle le Maharal, où il dit, bien sûr, il y a cette division, notre Dieu, il y a une limite, il y a l'Ein Sof, etc. Mais il médite beaucoup dans Éternité d'Israël, ce moment où Moïse prend les tables. C'est-à-dire, il y a un vide, vraiment, il y a un vide entre Dieu et l'homme. Il y a quelque chose de radicalement, avec tout le vide que nous pouvons expérimenter aussi dans l'existence à certains moments, de façon vraiment existentielle, de façon globale, par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres. Et il fait tout un éloge de ce vide qu'a osé affronter Abraham, alors que dans le Tanakh, le mot vide n'est pas présent, mais le Maharal fait un commentaire très très long là-dessus, et à la fin en particulier en disant qu'à la fin de sa vie, il est loué pour cette main puissante. Et il ne s'agit pas seulement de la main puissante par laquelle Dieu nous a sauvés d'Égypte, mais c'est la main puissante par laquelle il a osé affronter le vide pour se saisir de se mettre en relation avec Dieu. Et je pense aussi qu'il y a un autre lieu qui est très important et dans lequel peut-être nous sommes particulièrement aujourd'hui. Quand il s'agit de passer dans la terre d'Israël, Moïse et Aaron, enfin avec leur pôle masculin et féminin, rassemblent le peuple et il est spécifié. Bon, il y a un certain nombre de conditions qui sont posées et en particulier il faut que les femmes soient là. On rassemble tout le peuple et il faut que les... On les dit, on va lire la Torah, etc. Et tout le monde y est là, les femmes y comprises. Alors ce lieu, pour pouvoir tendre, pour que l'humain puisse tendre, même vers ce concept, ou vers cette dynamique qu'est l'unité du monothéisme, elle ne peut se faire que si on pose ces problèmes-là, dans la problématique qui est indiquée à ce moment-là, avant que nous passions, et Shmuel Trigano il parle souvent du second appel, avant que nous puissions vraiment assumer le second appel, il faut que nous nous mettions, hommes et femmes, ensemble, dans le peuple juif. Et là, nous voyons bien que nous n'y réussissons pas encore vraiment. Il ne suffit pas de dire « Ah, la question est réglée ». Il y a toute une halakha et puis toute une réflexion existentielle à faire et qui est indiquée dans le Tanakh. Comment être homme et femme ensemble pour entendre et pour passer, pour entendre le second appel et passer ensemble de l'autre côté. Je crois que ça, c'est l'un des lieux dans lesquels on peut advenir cette unité. Mais là, c'est à défricher, vraiment. Je n'accuse pas, je ne dis pas que c'est réglé. Je crois que c'est vraiment à défricher.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? L'intervention de Trigalon.
Je voudrais poser une question d'un ordre, plutôt idéologique, à Christian de la campagne. C'était très intéressant votre propos, mais j'ai quelque chose qui n'est pas clair pour moi. Pourquoi faudrait-il que la culture indo-européenne ou le mythe de l'indo-européanisme n'existe pas ou soit sans consistance ? Pour que l'on évite son opposition au monothéisme. Il y aurait une solution de cette opposition qu'on nous dit exister dans la destruction de la solidité de l'édifice indo-européen.
On s'est peut-être tout simplement mal compris. Il ne faut pas que les indo-européens n'existent pas. Il y a plusieurs questions. D'abord, il y a la question de savoir s'ils existent, s'ils ont existé. Cette question-là, je crois qu'elle est très difficile à trancher. Il a existé des gens qui ont parlé des langues indo-européennes. Il a, à l'intérieur de cet ensemble, existé des sous-ensembles de gens qui ont eu des relations sociales et culturelles assez étroites, comme par exemple les Grecs et les Romains. Ou les Indiens et les Iraniens, parce qu'ils étaient voisins, tout simplement. Mais il est probable qu'il n'y a rien eu de commun sur le plan des structures religieuses entre ces différents peuples, puisque même les Grecs et les Romains, qui étaient voisins, n'avaient pas du tout la même vision tripartite. Les Romains l'avaient, mais les Grecs ne l'avaient pas. Et les Grecs étant plus anciens que les Romains, ça fait problème. Il ne peut pas s'agir d'un oubli ou d'une perte de mémoire. Ça veut dire que fondamentalement, dès le départ, la vision tripartite du monde n'existait pas chez les Grecs. Même dans les textes homériques les plus anciens, on ne la trouve pas. Alors, à partir de ces constatations, qui sont discutables, comme tous les, comme tous les résultats d'enquêtes scientifiques, philologiques ou archéologiques, à partir de ces constatations, il est légitime de se demander si le mot de polythéisme recouvre quelque chose. À mon avis, le mot de polythéisme est un concept un peu... le mot de polythéisme recouvre un concept, disait, je crois, Deleuze en parlant des nouveaux philosophes, un concept gros et vide comme une ventreuse. Hein. Le concept de polythéisme, à mon avis, ne recouvre pas une réalité simple, unique et objective. Je dirais presque, je dirais qu'en règle générale, le polythéisme, c'est la religion des autres, pour un monothéisme. C'est la religion des étrangers. Par conséquent, ça ne désigne pas une religion, mais une multitude de formes religieuses, dont certaines n'étaient peut-être pas polythéistes. Un exemple, les Européens, alors je parle de ceux du XIXe siècle, ceux qui ont colonisé l'Afrique noire, disaient fréquemment que les peuples d'Afrique étaient des sauvages, et que la meilleure preuve qu'ils étaient des sauvages, c'est qu'ils étaient polythéistes. À l'époque, l'argument se renversait dans ce sens-là, se déclinait en sens inverse. Or, lorsqu'on a un peu mieux connu les peuples d'Afrique noire, et lorsque en particulier des anthropologues comme Marcel Griol et quelques autres ont étudié d'un peu plus près les systèmes religieux et les représentations du monde des peuples d'Afrique noire, qu'est-ce qu'ils ont observé? Ils ont observé que dans la plupart des religions des peuples plus primitifs, il y avait derrière un polythéisme apparent, un monothéisme de fond. Il y avait en particulier un être suprême et une religion centrée sur l'être suprême, même si cet être suprême pouvait lui aussi se décliner selon des noms différents. Un autre exemple, l'hindouisme. L'hindouisme a été souvent portraituré par les occidentaux comme un polythéisme. Or, si vous interrogez un hindouiste qui connaît un petit peu sa religion, il vous expliquera très rapidement que ce polythéisme est un polythéisme apparent, nominal, et en quelque sorte superficiel, et que Brahma, Vishnu et Shiva ne sont que les noms différents d'une même entité, un petit peu comme dans l'histoire de France, je peux dire Napoléon, je peux dire Bonaparte, je peux dire le vainqueur d'Austerlitz, ou je peux dire l'homme des 100 jours, et il s'agit pourtant toujours du même individu. En réalité, donc, ce qu'on continue d'appeler un peu rapidement, et à mon sens un peu superficiellement, polythéisme, peut recouvrir des formes religieuses, des structures de pensée complètement différentes les unes des autres, et peut-être en fin de compte différentes du polythéisme, et peut-être en fin de compte aussi profondément monothéiste que l'est le monothéisme juif. Donc, lorsque je dis que c'est un faux débat, je l'ai dit peut-être un peu abruptement. Alors je m'explique. Je ne veux pas dire que le débat soit sans intérêt. Je ne veux pas dire que le monothéisme n'est pas le monothéisme ou qu'il ne s'oppose pas à autre chose qui serait de l'ordre de l'idolâtrie ou du polythéisme. Je veux dire qu'il ne faut pas faire de cette opposition conceptuelle une opposition mythique, une espèce de division du monde en deux catégories. Une division un peu manichéenne où il y aurait d'un côté les monothéistes, de l'autre les polythéistes. C'est-à-dire que les choses sont plus compliquées, qu'il y a des formes de transition, et que bien souvent, le polythéisme peut cacher du monothéisme, comme de même, le monothéisme peut cacher du polythéisme. On l'a suffisamment dit, en particulier les adversaires du christianisme, ont souvent dit que le christianisme, derrière son monothéisme apparent, cachait un polythéisme profond qui s'exprimait dans le culte de la Vierge, dans le culte des saints, etc., etc. Vous voyez que l'argument est perpétuellement renversable et peut sans cesse se décliner en sens inverse. Il y a cette ambiguïté permanente qui fait qu'on n'est jamais, et alors là je rejoins ce que disait monsieur, on n'est jamais conceptuellement d'un côté ou d'un autre. Ça serait trop simple. Ça n'est jamais comme ça au niveau du vécu. Au niveau du vécu, on tend vers un pôle ou vers un autre. On tend vers le vécu monothéiste. On peut aussi choisir de tendre vers le vécu polythéiste. Et au fond, les néo-païens, les théoriciens du néo-paganisme, entre guillemets, s'ils nous disaient franchement, nous sommes des gens qui tendons vers un vécu polythéiste, parce que nous ne croyons pas à la loi,
droit, parce que nous voulons la libération du désir, parce que nous voulons l'éparpillement de la personnalité, parce que nous sommes des pluralistes, des gens du multiple, des hommes du multiple. Si nous disaient franchement cela, si nous en faisaient une position, tout simplement une position éthique et politique, alors je dirais bien, on peut ne pas être d'accord, mais c'est une position estimable, c'est une position qui se défend. Ce n'est peut-être pas la mienne, mais c'est une position qui peut se justifier. C'est une position qui a des antécédents philosophiques. Il y a eu des grandes philosophies du multiple dans l'histoire de la philosophie. Leibniz était un philosophe du multiple. Et personne ne songerait à dire de Leibniz qu'il était un païen, un matérialiste ou Dieu sait quoi. Si, au fond, on plaçait directement le débat sur ce plan, qui est un plan moral et politique, je dirais qu'on avancerait beaucoup plus vite. En réalité, ce qui, moi, me gêne, et ce pourquoi j'ai voulu sortir du débat et rejeter le débat, c'est que ce débat n'est pas un vrai débat philosophique. C'est un débat au niveau du fantasme, au niveau du mythe, au niveau de la représentation qu'on se fait de l'autre, mais ce n'est pas le débat philosophique. Est-ce que c'est encore confus
non,
ou un peu plus clair?
Je voulais entendre par là qu'il me semble que derrière ce débat apparemment théorique, il s'agit d'un débat de nature idéologique et politique.
Ah, mais j'en
c'est-à-dire, la question que je me pose, c'est de savoir pourquoi, en cette fin du XXe siècle, le monothéisme, c'est-à-dire en fait derrière ce masque le judaïsme, les juifs, puisqu'il est la racine même de cette expérience humaine.
Et le christianisme et l'islam, puisque pour les néo-païens, c'est quand même le
bien
même
sûr, mais malgré tout, il y a une série d'antécédents dans l'histoire moderne qui nous demande d'être extrêmement prudents.
Absolument.
Pourquoi aujourd'hui cette sorte d'attaque ou de critique du judaïsme prend les traits de la cause polythéiste, indo-européenne, etc. C'est la question que je me pose.
Tout simplement parce que les travaux des historiens, des philologues et des archéologues sur les indo-européens servent d'alibi. Et à mon sens, ce n'est rien de plus qu'un alibi, mais rien de moins. C'est-à-dire qu'un alibi, ce n'est pas grand-chose, mais c'est bien agréable d'en avoir un. C'est bien commode d'en avoir un sous la main. Et je crois que les travaux des philologues sur les langues indo-européennes, les travaux de Jung, les travaux d'Eliade, les travaux de Dumézil, fournissent un alibi commode aux gens qui en ont besoin pour justifier une cause qui, encore une fois, n'est pas une vraie cause philosophique, mais une cause d'ordre moral, politique, idéologique, comme vous dites. C'est-à-dire une cause, finalement, pratique, la défense d'un intérêt pratique immédiat, la défense d'une façon de voir le monde, la défense peut-être même d'un système de pouvoir. Alors, un certain nombre de travaux réellement scientifiques sur les Indo-Européens servent d'alibi ou de pseudo-fondement à cette représentation mythique de l'autre. C'est comme ça, à mon avis, que s'opère le démontage.
Pardon, c'est... Oui, il y avait...
On ne comprend pas ce que quand vous citez les travaux de Dumézil, vous ne citez pas dans la mort les travaux de René Guénon. Il a fait un travail sur les mentales, les traditions,
oui.
C'est un très grand théorique.
Bien sûr.
Il a fini converti et catholique, franc-maçon, finissant converti à l'islam.
Oui.
Il ne fait rien avec un cher. Donc, l'honnêteté de des gens qui prennent leur cours dans le film.
Oui, mais absolument. Simplement, toujours dans la lignée de la réponse que je faisais à Schmeck-Trigenon, les théoriciens du néopaganisme cherchent un alibi commode, visible, facile à trouver. Ils en ont un chez Dumézil, mais probablement ils n'ont jamais entendu parler de René Guénon. La réponse à votre question est aussi simple que celle-là. Ils n'ont jamais entendu parler de René Guénon parce que l'œuvre de René Guénon en France, aujourd'hui, ne passe pas pour être une œuvre scientifique. C'est une œuvre qui est considérée comme une œuvre religieuse, ésotérique, hermétique. Elle n'a pas le statut reconnu de l'œuvre scientifique du professeur Dumézil, titulaire de la chaire de langue indo-européenne au Collège de France. Je crois que c'est tout.
Moi, je me trouve bien morose ce soir. J'ai connu des salles beaucoup plus houleuses. Qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de la polyphonie. Eh ben, ajoutez votre voix à cette polyphonie-là, elle n'en sera que plus riche. Oui. Oui. Ça vous paraît cohérent, quand même, dans l'ensemble.
Non, mais je crois que le débat recouvrant une fausse opposition, effectivement, ne peut que partir dans toutes les directions, parce que il n'y a pas une vraie structure derrière tout ça.
On va rassembler quand même sur un ou deux points tout à fait fondamentaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Je voudrais dire pas certain d'attribuer une certaine synthèse, mais donc il est vrai que du coup, il y a une exploitation effectivement de ce qui s'est élevé au stade d'un débat de monothéisme, le polythéisme, exploitation idéologique, exploitation politique. Ouais. Ce qui peut effectivement être tout à fait coexistant avec un réel problème, qui est un problème peut-être effectivement de je ne sais pas, de fin de siècle en rapport avec une certaines crises donc de valeurs traditionnelles humanistes dans la tradition anglo-saxonne. Je ne sais pas, le goulag, par exemple, fait apparaître dans un certain nombre de définitives, la mise en cause d'une certaine notion de totalité qui était inscrite, par exemple, dans une certaine tradition marxiste, qui pouvait être dans une certaine mouvance, peut-être judéo-chrétienne. Ce que je veux dire, c'est que ne peut-on pas dire que, effectivement, par exemple, un ouvrage a été écrit récemment, Le retour de Dionysos, et qui tente de montrer que, effectivement, de façon tout à fait insidieuse, de façon manipulée, il y a certains assauts dont, de façon philosophique, sont tout à fait structurels, il faudrait peut-être trouver des termes un peu concrets. C'est-à-dire effectivement une certaine dissolution d'un individu qui, dans les sociétés antérieures, compte tenu effectivement du poids des traditions de la religion, etc., pouvait avoir une cohérence. Cette cohérence, effectivement, peut-être devant la crise de des valeurs, devant nos multiples images, etc., on prend une certaine dissolution de cette cohérence de l'individu, ce qui. Ce qui est effectivement une mise en cause peut-être du monothéisme. Alors, ce que je voulais dire, sans plus clair, ne peut-on pas dire en définitive, à côté effectivement de l'exploitation du débat politique, il y a un vrai problème effectivement, qui est celui d'un assaut tout à fait inconscient contre peut-être un certain héritage du monothéisme.
Si les orateurs me permettent d'intervenir, je crois qu'on peut rentrer plus à vif dans le débat et ne pas avoir peur de la valeur que le mot monothéisme exprime dans la terminologie grecque. Qu'est-ce que nous écoutons depuis quelques jours dans les journaux, à la radio, n'est-ce pas ? C'est un appel à l'unité du peuple français. Que ce soit dans les déclarations du président de la République, que ce soit dans le dernier article de Chaban-Delmas, n'est-ce pas ? Au-delà de la majorité de l'opposition, on invoque l'unité du peuple français. Parce que la pluralité dans sa forme dégradée, c'est la dispersion, c'est l'éclatement et c'est la mort. Alors, si vous me permettez une hypothèse sur les Indo-Européens, je crois que, effectivement, là aussi, il faut sortir un peu du débat et se dire que peut-être toutes les civilisations ont eu à régler le triple problème qui s'exprime par le schéma trifonctionnel ou tripartite de la production de la vie, de sa conservation et de son dépassement. Et la triade chez Dumézil entre Jupiter, Mars et Quirinus, on la retrouve effectivement dans le mot Mishkan. Sauf que, je dirais que dans la tradition juive, le dernier terme, le quatrième terme, qui est le terme prophétique, joue un rôle tout à fait fondamental. Parce que, je crois important d'insister sur ce point, Dumézil montre qu'il y a une régression du schéma trifonctionnel vers un schéma monofonctionnel, qui est un schéma totalitaire. À l'époque, par exemple, des empereurs qui se sont divinisés et qui ont capté dans leur personne l'infini, les pouvoirs absolus et les trois fonctions. Cette régression, elle s'est produite aussi dans le judaïsme. Et c'est tout le rôle du prophète que, d'une part, de redistribuer la pluralité, que de redistribuer la démocratie, pour le dire en un mot, et d'autre part, de rappeler que l'unité est quelque chose qui, vers quoi on l'a dit, quelque chose de tangentiel, quelque chose vers quoi l'on tend. Alors je crois que au-delà des concepts, au-delà de la terminologie, je dirais même peut-être plus brutalement au-delà du verbiage actuel, ce qui est en cause, ce sont les comportements. Et je dirais qu'il y a des comportements qui se réfèrent à un monothéisme qui n'est en vérité que la forme camouflée d'une monolâtrie. Et je crois qu'il faut bien insister sur la différence entre ces termes. Et il y a des êtres qui sont des êtres de la dispersion, des êtres de la pluralité, et qui sont à la recherche d'une unité qui ne soit ni confusionnelle, ni totalitaire. Mais je crois que d'un point de vue juif, il faut savoir débusquer les pseudo-théories ou les pseudo-idéologies qui prétendent attaquer le judaïsme dans sa pensée la plus profonde, et en même temps rappeler que le judaïsme, ça n'est pas seulement une surenchère philosophique, mais c'est aussi une mise à l'épreuve, et cela nous ramène très centralement et très fondamentalement à la leçon d'Abraham. Abraham est un homme qui a été mis à l'épreuve. Et il me semble que c'est sur ce thème que les uns et les autres, dans le monde actuel, nous devrions réfléchir. Je crois que Roger, tu voulais dire quelque chose ?
Oui.
Mon mot tient en un mot, hein. Vraiment un mot. La question n'est pas seulement comment l'être, la question est pourquoi l'être et faut-il l'être.
D'une part, et d'autre part, quand j'ai fait référence à la dimension idéologique, je voulais dire que, qu'en fait, cette opposition du polythéisme et du monothéisme, qui est un peu plus pour tellement longtemps peut-être à l'ordre du jour, elle est une sorte de diversion de la conscience, parce qu'en fait, cette opposition se situe ailleurs. Je pense que il faut pas être pris au piège de la discussion théorique.
Mais là, l'ailleurs, il y aura un débat.
Non. Alors, l'ailleurs, c'est la société française, et c'est la situation politique en France, et notamment la dimension juive en France. Je crois que c'est ça, l'ailleurs, précisément. Et que je crois que à travers ce débat confus sur ce sujet, ce débat qui semble soulever une sorte de remontée mythique, nauséeuse, bizarre, extrêmement baroque, je pense qu'est en train de passer quelque chose de plus profond et qui est directement politique. Je veux dire la politique, pas dans le sens philosophique du terme. Et évidemment, la question que je pose, c'est quoi ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'annoncerait à travers ce débat précisément.